Vous êtes sur RTL. RTL Midi. Le 12h. Pascal Pro, Céline Landreau.
Bonjour à tous et bienvenue dans RTL Midi. 2h30 d'information et d'opinion jusqu'à 14h30. L'information jusqu'à 13h avec vous, Céline. Et c'est vrai que cette actualité ce matin est dramatique.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Et à la une, effectivement, la fin de l'espoir pour les proches de Siem. Cette jeune femme de 18 ans disparue la semaine dernière à Grandcombe dans le Gard. Son corps a été retrouvé la nuit dernière sur un chemin de campagne isolé sur les indications du suspect qui dit l'avoir tuée dans le cadre d'une dispute liée à leur relation amoureuse. On y revient évidemment dès le début de cette édition. La réforme des retraites et le front syndical qui semble moins uni, au moins à la SNCF où les syndicats hésitent sur l'attitude à adopter le 11 février. C'est un samedi. Une manifestation est déjà prévue, mais faut-il en plus faire grève et empêcher les départs en vacances? Les stratégies divergent. Dans l'actualité également, Yves Rocher qui licencie et le PSG qui s'inquiète pour Mbappé, sorti sur blessure hier à moins de deux semaines du 8e de finale de Ligue des Champions contre le Bayern.
RTL toujours plus proche de vous dans moins de 10 minutes. RTL Midi, un jour chez vous en France.
Aujourd'hui, direction Pouilly dans les Côtes d'Armor où le projet d'une usine à saumon crispe la population. À midi 20, RTL Midi, votre vie plongée dans votre quotidien gourmand aujourd'hui, puisqu'on en va parler crêpes, évidemment, c'est le jour de la Chandeleur. La question du jour y est d'ailleurs consacrée sur notre site rtl.fr. À propos de la Chandeleur, faites-vous des crêpes ce jour-là? Enfin, de la culture, juste avant 13h, LVT Midi, vous connaissez le rendez-vous, avec aujourd'hui la future comédie musicale de Dovatia consacrée à Molière.
Et on attend évidemment vos réactions sur la disparition de la jeune CM.
La météo, c'est avec vous aujourd'hui, Peggy Broche, bonjour.
Bonjour Céline, bonjour à tous.
D'un mot, qu'est-ce qui nous attend cet après-midi?
Encore nuageux au nord, mais bien ensoleillé sur un tiers sud.
Merci Peggy, la météo complète à la fin du journal.
RTL Midi.
Le corps de Siem a donc été retrouvé cette nuit sur un chemin de campagne isolé près de Grandcombe où résidait la jeune fille de 18 ans, disparue il y a 8 jours. C'est le principal suspect qui a avoué le meurtre pendant sa garde à vue. Cécile Jansac, la procureure de Nîmes.
Le gardé à vue, lien de famille éloigné de la victime, passé aux aveux, en soirée, il indiquait avoir tué la jeune femme dans le cadre d'une dispute liée à leur relation amoureuse, alors même qu'ils s'étaient retrouvés la nuit des faits en toute intimité. Il indiquait le lieu où se trouvait le corps, à savoir un endroit isolé aux alentours de la Grandcombe.
Bonjour Patrick Tégéraud.
Bonjour Céline, bonjour à tous.
On vous retrouve donc à Grandcombe dans le Gard. Le suspect avait été placé en garde à vue avant-hier. Il a donc fini par avouer les faits hier soir, Patrick.
Oui, vers minuit, alors que la garde à vue filait vers son terme, Mahfoud Ansali a enfin parlé sur les conseils de maître Jean-Marc Darrigade, qui a obtenu ses aveux.
Oui, mon client a décidé d'affronter sa lourde responsabilité. Il a décidé de guider les enquêteurs. Il a décidé d'arrêter un suspense insoutenable pour la famille de la victime. Et ensuite, il a décidé évidemment de soulager sa conscience et d'affronter les juges.
Maître Jean-Marc Darrigade était au micro de Thomas Proutot. Alors ce sont des aveux circonstanciés car après sa présentation au parquet cette nuit, il a conduit les enquêteurs jusqu'au corps de Siem, au bord d'un chemin, en pleine forêt, à quelques kilomètres seulement de là où elle habitait. Et c'est désormais toute une région qui est bouleversée. Je me trouve actuellement devant le foyer municipal de l'Habitarel. C'est un ancien quartier de mineurs. C'est là qu'a grandi Siem. C'est ici qu'elle est partie pour ne plus revenir. De nombreuses personnes sont venues rendre hommage à sa mémoire et partager la douleur de ses parents.
Patrick Tégéraud à Grandcombe, donc dans le Gard pour RTL.
RTL Midi.
Y aura-t-il des trains le 11 février prochain, jour de départ en vacances?
La question fait débat, en tout cas, entre les syndicats de la SNCF qui hésitent à faire grève ce jour-là, jour de mobilisation contre la réforme des retraites sur les rails. En effet, le front syndical semble un peu moins uni. Si tous appellent bien à la grève le mardi 7, journée de mobilisation interprofessionnelle, la CGT et Sudrail veulent poursuivre le mercredi 8. On y reviendra longuement après le journal avec Arnaud Touche. Le texte de la réforme lui a quitté la commission des affaires sociales hier soir, où les députés n'ont d'ailleurs pas réussi à examiner tous les articles. Il restait près de 5000 amendements à étudier à la fin des travaux. La suite, ce sera donc lundi dans l'hémicycle.
La politique, c'est aussi ce pas de plus vers l'entrée de l'IVG dans la Constitution.
Le Sénat a en effet voté hier soir en faveur de l'inscription dans la Constitution de la liberté de la femme à recourir à l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse, la liberté et pas le droit, cher à la gauche. Les deux chambres ont donc donné chacune à leur manière un feu vert. Marie Mollet, qu'est-ce qui va se passer maintenant ?
Eh bien, l'Assemblée et le Sénat doivent encore se mettre d'accord. Les deux chambres doivent trouver une seule formulation à la virgule près. C'est la règle quand on parle de changer la Constitution. Alors, le texte va repartir à l'Assemblée. Est-ce que les députés de la gauche vont accepter l'écriture du Sénat, même s'ils la jugent imparfaite, puisque vous l'avez dit, les sénateurs parlent de liberté et eux voudraient un droit garanti, c'est toute la question. Il n'en reste pas moins que le feu vert venu hier soir du Sénat est une surprise, car la droite sénatoriale est opposée de longue date à l'idée d'inscrire l'IVG dans la Constitution, car elle estime que la loi Veil suffit à protéger ce droit. Mais les LR se sont divisés hier soir. Nous ne sommes en tout cas pas au bout du processus, car en cas d'accord entre les deux chambres, il pourrait y avoir un référendum où le gouvernement pourrait reprendre la main en déposant un projet de loi. C'est ce que souhaitent les insoumis pour aller plus vite et s'épargner un scrutin.
Marie Mollet du service politique d'RTL, merci.
C'est l'une des enseignes préférées des Français. Yves Rocher annonce la suppression de 300 postes.
Une réduction d'effectifs sur 3 ans, Martial You, et qui provoquera notamment la fermeture de l'usine de Plouermel.
Oui, déclin d'une certaine France populaire, celle de la vente par correspondance avec le catalogue des Trois Suisses, le livreur de surgelés tout par gel, les envois de livres France Loisirs et donc le carton de cosmétiques Yves Rocher. Tout ça, c'est une époque, une page qui se tourne. C'est sans doute aussi la première faiblesse de la marque Yves Rocher. Un côté un peu vieillot, c'est la marque des baby-boomers d'après-guerre et pas forcément celle des trentenaires. Yves Rocher a surtout du mal à se remettre de l'après-Covid. 680 boutiques en France situées dans des centres-villes de villes moyennes, en région, des villes qui ont souffert avec la fermeture de leurs magasins. Un redémarrage aussi des ventes de cosmétiques au niveau d'avant-Covid, mais plutôt sur des marques de luxe, pas forcément sur une marque grand public comme Yves Rocher. Et puis une marque piégée par son exposition à la Russie. Deuxième marché après la France, 15% de son chiffre d'affaires. Yves Rocher restait ouvert après l'invasion en Ukraine alors que les autres marques occidentales quittaient la Russie. Ça a pu ternir aussi un peu l'image.
Merci beaucoup Martial You. Inquiétude au Paris Saint-Germain après la blessure de Kylian Mbappé sortie hier lors du match de Ligue 1 contre Montpellier. L'attaquant français touché à la cuisse gauche à moins de 2 semaines du 8e de finale aller de Ligue des Champions contre le Bayern Munich.
Et Sandrine Rousseau en avait parlé hier après-midi, elle ne lui a pas porté bonheur.
C'est vrai. Merci pour ce complément d'information.
Non, mais c'est intéressant. Même lorsqu'elle parle de Mbappé, Mbappé se blesse ensuite.
Alors, je ne suis pas certaine du lien de causalité parce que je n'ai pas vu Sandrine Rousseau en regardant le match hier sur le terrain, mais il y a peut-être un lien, vous avez raison. Un mot de rugby maintenant. Alexandre Martinez, l'actuel trésorier de la Fédération française de rugby, deviendra officiellement demain président par intérim de la FFR. Et cela après la démission, vous le savez, de Bernard Laporte la semaine passée.
Enfin, on est tous tristes dans le monde journalistique, mais également dans le monde du grand public, puisqu'on a appris le décès du journaliste, écrivain, éditorialiste Philippe Tesson, qui était une légende, disons-le, pour notre métier.
Rédacteur en chef du légendaire, là aussi, journal Combat dans les années 60, fondateur du Quotidien de Paris, le père de l'écrivain Sylvain Tesson avait 94 ans. Les plus jeunes l'avaient découvert comme polémiste sur les plateaux télé ou radio, où il assumait souvent la posture du réac. C'était le cas, notamment sur RTL, dans son édito Carton Rouge 3 étoiles. Nous sommes maintenant en 98, le coup de gueule de Philippe Tesson ce matin-là contre Internet, coup de gueule visionnaire.
De jour en jour, on se rend compte que Internet est une vraie poubelle qui recueille toutes les saloperies des temps modernes. Pornographie, réseau de pédophilie, commerce de drogue, l'aide au terrorisme, etc. Il s'agit d'une criminalité d'un type nouveau, qu'on appelle la cybercriminalité, qui est déjà un véritable cauchemar pour la police et qui, dans les temps prochains, va devenir un vrai fléau pour notre sécurité, pour la sécurité de chacun de nous dans sa vie sociale comme dans sa vie privée.
Visionnaire, on le disait, Philippe Tesson sur RTL en 98, je le rappelle, avec Jacques Esnoux dans Carton Rouge 3 étoiles. À l'époque, les technologies, vous l'avez compris, n'étaient pas tout à fait les mêmes. Il était donc au téléphone.
On lui rendra hommage avec les auditeurs tout à l'heure.
La météo, on vous retrouve comme promis Peggy Broche. Mon cap au sud si on veut bronzer cet après-midi.
Ah oui, ça c'est sûr. Bon, bronzer, je ne sais pas, mais en tout cas, prendre un peu de soleil, on en a bien besoin sur un tiers sud, oui. Au sud d'une ligne Bordeaux-Valence, là c'est bien ensoleillé. Mistral et Tramontane persistent, hein, ça souffle entre 70 et 80 km/h. Sur la Corse, pareil, du soleil. Et au nord de cette ligne, on a un temps plus ou moins nuageux. Alors, on peut quand même avoir l'espoir d'avoir quelques trouées possibles ici ou là, sauf sur l'Alsace-Lorraine où là ça reste bien gris, beaucoup de grisailles et quelques fines pluies, pas grand chose. On a également quelques flocons sur les Vosges des 900 mètres, tout ça sous des températures qui sont quand même douces pour la saison. 6 à Langres, 7 à Mulhouse, 8 degrés à Strasbourg, 9 à Nevers, 10 à Lyon et Rouen, 11 à Paris et Bordeaux, 13 à Nîmes, 14 à Perpignan et 15 degrés à Montpellier.
Merci Peggy.
RTL Midi, un jour chez vous.
Un jour chez vous en France, chaque jour nous faisons un tour de France.
Et aujourd'hui direction Pouisy dans les Côtes d'Armor où la société norvégienne Smart Salmon envisage la création d'une usine de 50 000 mètres carrés, usine dédiée à l'élevage de saumon. 150 millions d'euros d'investissement avec une centaine d'emplois à la clé, voilà pour la promesse. Bonjour Mathieu Lopineau.
Bonjour Céline, bonjour Pascal et bonjour à tous.
Le problème c'est que malgré ces chiffres avancés, ce projet ne plaît pas du tout aux habitants de Pouisy.
Oui, effectivement, un collectif s'est même monté, le collectif d'Ouriau-Gouez, qui pointe la consommation d'électricité de cette usine à saumon, 48 000 mégawattheures par an. Adrien du collectif s'inquiète aussi car cet élevage est très gourmand en eau.
On a une formule pour présenter le projet, c'est des saumons dans du béton. On parle d'au moins 600 mètres cubes d'eau par jour pour faire fonctionner l'installation. Sachant que le territoire a déjà fait face à des épisodes de sécheresse, pas plus tard que cet été. Il y a des boues aussi qui vont être produites un peu comme pour les méthaniseurs, qui s'agirait alors d'épandre, mais le territoire a déjà un peu saturé de ces boues, alors qu'en faire ?
C'est un projet expérimental et unique en raison de sa taille et de sa capacité de production.
Effectivement, un projet de pisciculture terrestre, c'est-à-dire de la production du saumon jusqu'à son abattage. La société norvégienne Smart Salmon envisage de produire 8000 tonnes de saumon par an. Et le président de Guingamp-Paimpol Agglomération, Vincent Lemot, favorable donc à ce projet, qui n'a pas voulu répondre à mes questions, mais met en avant la centaine d'emplois créés avec cette usine. Et puis le deuxième point fort des porteurs de projet, c'est l'autonomie alimentaire, produire et manger du saumon breton. Même si 8000 tonnes de saumon, c'est beaucoup, il y aura donc énormément d'exports.
Et l'usine à saumon, Mathieu, sera au menu, si je puis dire, du conseil communautaire ce soir.
Oui, et Adrien du collectif d'Ouriau-Gouez attend beaucoup de cette réunion publique.
Si on a un vote contre, on ne voit pas trop comment l'exécutif pourrait continuer à s'entêter là-dedans. Malheureusement, un vote pour est possible, mais il n'enterrera pas les oppositions vives par rapport au projet.
Conseil communautaire prévu donc à 18h ce soir à Bégard et il promet d'être très mouvementé, vous l'avez compris.
Merci beaucoup Mathieu Lopineau dans les Côtes d'Armor aujourd'hui pour RTL.
L'actualité ça reste la grève et le front désuni désormais à la SNCF, on en parle avec Arnaud Touche dans une seconde.
RTL pour tout comprendre de l'actualité. Céline Landreau, Pascal Pro, RTL Midi.
3 jours de mobilisation la semaine prochaine contre la réforme des retraites. Alors que le texte arrivera dans l'hémicycle à l'Assemblée nationale lundi, les syndicats appellent à manifester les 7 et 11 février, mardi et samedi, donc ça on le savait. Mais certains appellent aussi à la grève le mercredi 8. Bonjour Arnaud Touche.
Bonjour.
Et bonjour Thomas Després.
Bonjour Céline, bonjour Pascal, bonjour à tous.
Spécialiste transport notamment et politique ici à RTL. Alors les syndicats qui voyaient jusque-là leur front uni sont un peu moins d'accord sur la ligne à suivre désormais, notamment à la SNCF, Arnaud Touche, où on se divise sur l'opportunité d'une grève le samedi 11, jour, on le rappelle, de départ en vacances ou retour pour 2 zones.
C'est vrai que pour samedi prochain, les syndicats, ils hésitent, ils ne sont pas très clairs, mais ils vont probablement opter pour un appel à la manifestation plutôt qu'un appel à la grève. Alors ce n'est pas tout à fait la même chose en langage syndical. En gros, ils veulent du monde dans la rue, mais tout en limitant les perturbations sur les rails et tout en laissant la possibilité à ceux qui veulent faire grève et bien de pouvoir le faire. Ce serait très impopulaire de faire grève un samedi de chassé-croisé, explique l'UNSA sur RTL ce matin. La CGT et Sudrail appellent à manifester, mais ils ne prononcent pas le mot grève et la CFDT pour le moment, elle ne dit rien. Et c'est vrai que la CGT et Sudrail vont également faire grève mercredi prochain.
Oui, mais décision quand ?
Alors, décision quand ? Pour la grève ou pas ?
Bah, oui, pour savoir s'il y aura grève.
Probablement demain soir, les syndicats vont en discuter, mais les lignes ne sont pas très claires. On a en fait deux camps, en quelque sorte. On a l'UNSA et la CFDT, qui, on va dire, respectent, entre guillemets, l'intersyndical national, avec les deux mobilisations du 7 et du 11. Et de l'autre côté, la CGT.
Et il n'y a pas de tendance pour ceux qui nous écoutent et qui prennent leur billet ?
Pour le moment, non. En revanche, ce qu'on sait, c'est que mardi, il y aura très peu de trains, ça c'est sûr. Mercredi, il y a donc un mouvement de grève à la SNCF. SNCF par la CGT et Sudrail, il y aura un petit peu plus de trains. Samedi, c'est l'inconnu, je ne peux pas vous dire.
C'est l'inconnu. Ça, c'est pour les trains. Comment ça se passe dans les autres secteurs?
Alors, les journées de mobilisation, effectivement, c'est le 7 et le 11. À la RATP, vous voyez, il n'y a pas d'autres actions pour le moment. Il n'y a qu'à la SNCF où il y a un mouvement autre, qui est celui de la CGT et de Sud, où ils font une manifestation en plus le mercredi. Mais à la RATP, ils ne feront grève que le 7 et le 11. Et c'est vrai qu'en général, on voit que la CGT fait grève et appelle à la grève en dehors, on va dire, des grosses journées du 7 et le 11. C'est la CGT, en général, qui propose ces mouvements-là.
Thomas Després, du service politique d'RTL. Comment on regarde ça au gouvernement? Est-ce qu'on se réjouit d'une certaine manière de voir que le front syndical commence à se fissurer
un
petit peu?
Oui et non. En fait, on manie le sujet avec une infinie précaution, en fait, Céline. Hors de question d'apparaître comme des briseurs de grève au gouvernement. On ne fait pas de commentaires. On respecte les décisions syndicales, expliqué ce matin à un conseiller, même si, quand on creuse un petit peu, ils sont un peu plus bavards, pourvu que les Français puissent partir en vacances, sinon ça risque de retomber à nouveau sur les épaules du gouvernement, et ça, ils savent bien que ce n'est pas forcément une bonne chose pour eux, donc non, ils prennent tout ça avec des pincettes pour ne pas apparaître comme des gens qui pourraient vouloir empêcher les gens de manifester dans la rue.
Et effectivement, on peut dire aussi que la plupart des syndicalistes que j'ai eu au téléphone ces derniers jours me disent en fait, peu importe le taux de grévistes, pourvu qu'il y ait du monde dans la rue. Ça, c'est un peu le mot d'ordre ici. Et ce qu'on peut voir, c'est surtout la stratégie syndicale. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure, avec des syndicats type CGT au Sud qui sont beaucoup plus jusqu'au boutistes et d'autres qui sont plus mesurés, l'UNSA et la CFDT, qui ont dit dès le départ, nous, on fera grève les jours où c'est décidé en interprofession.
Alors, il y a autre chose parfois que j'ai entendu, c'est que les cheminots ne veulent pas être les seuls. En 2019, ils étaient les seuls à faire grève. Et c'est ce que dit Fabien Villedieu de Sudrail. Il veut bien faire grève, mais il faut que tout le monde soit avec lui.
Oui, alors on peut noter notamment la CGT Mines Énergie qui s'est alliée avec celle des docks aussi, typiquement les dockers, où là, ils appellent à des journées d'action conjointes, et aussi Mines Énergie, là, pour le coup, où la CGT s'est concertée avec plusieurs fédérations. Ça, c'est certain. Et les cheminots, en fait, se sont greffés aussi à cela. Ils sont quatre fédérations au total à appeler à des grèves en dehors, donc des 7 et du 11. Après, faut-il voir si ça va être suivi, bah ça, on le verra sur RTL, on suivra tout ça.
Évidemment, merci beaucoup messieurs et on compte sur vous Arnaud pour nous informer sur toutes les perturbations à venir la semaine prochaine. On rappelle ces dates, grève c'est sur le 7 à la SNCF,
un peu le 8.
En partie le 8 et peut-être le 11, on vous tiendra évidemment bien informé de tout ça.
Nous sommes le 2 février, c'est la Chandeleur, nous en parlons dans une seconde.
Votre avis compte, venez l'exprimer sur RTL au 3210.
50 centimes la minute.
RTL Midi, votre vie.
Et votre vie, évidemment, c'est les crêpes, c'est la Chandeleur, bien sûr.
Tout le monde m'appelle Beaufret, je fais des crêpes et des galettes de bon dans la fenouette.
Je me rappelais cette chanson il y a un instant d'Annie Cordy, tout le monde m'appelle Gaufred.
Mais c'est pas ça le titre.
Ça s'appelle comment?
Qui qu'en veut.
Qui qu'en veut, bien sûr. Mais il me disait à l'instant qu'enfant, il écoutait régulièrement cette chanson les jours de Chandeleur.
Les 2 février, donc cette journée où l'on mange des crêpes en pagaille. Bonjour Loïc Dugast.
Bonjour à tous.
Vous êtes le président fondateur du restaurant Bar à Pommes, dit restaurant dans l'ouest de la France.
Mais je le connais très bien, Loïc Dugast. Bonjour Loïc.
Salut Pascal, tu vas bien?
Mais je ne savais même pas que c'était vous qui interveniez, vous voyez, elle m'avait caché ça, Céline. Bah,
c'est-à-dire que j'ignorais que vous connaissiez, mais...
Qui ne connaît pas la boule, Loïc Dugast, c'est lui qui a fondé Bar à Pommes.
Bah, c'est ce que je viens de dire, ça par
bien
contre,
sûr,
je savais.
Il y a une petite vingtaine d'années aujourd'hui, et c'est vrai qu'on a 10 boutiques en ce moment, notamment, principalement on va dire dans l'Ouest, mais depuis récemment une aussi à Bordeaux, à Rouen et bientôt Lille.
Donc,
et Quimper. Donc, on continue le développement et c'est vrai que la crêpe fonctionne plutôt pas mal.
Alors justement, dites-nous qu'est-ce que c'est une vraie crêpe? C'est quoi la véritable recette de la crêpe bretonne?
La véritable recette de la crêpe bretonne. Mais avant tout, c'est de l'amour.
Après, mais dans le saladier, qu'est-ce qu'on met exactement?
Le parolier de Patrick Sébastien
également. D'après vous, c'est quoi? On met de la farine de froment, d'accord, de la farine blanche. On met du sucre, on met des œufs. On met du lait, et puis après, des petits secrets. On bat tout ça gentiment.
Pas de beurre.
Laisse reposer.
Pas de beurre, pas d'huile.
On peut très bien mettre du beurre, mais là aussi, vous avez autant de recettes de crêpes que de crêpiers. Donc, on peut mettre du beurre, on peut mettre de la bière, on peut mettre des parfums de vanille, de café. Mais la basique, c'est vraiment sucre, farine, et puis œufs et lait.
Et après, vous la faites cuire avec du beurre ou avec de l'huile?
Non, pas d'huile, pas forcément de beurre. On peut très bien mettre un petit corps gras dessus, ce qu'on appelle un lardiguel. Donc c'est en fin de compte un jaune d'œuf qui va venir graisser gentiment la poêle et la colorer pour pas qu'elle accroche. Il faut la cuire à une température assez élevée pour que justement elle puisse être saisie et qu'elle reste moelleuse. On peut la diluer un petit peu allongée avec de l'eau. Ça va la rendre un petit peu plus légère. Et à partir de là, on s'amuse surtout à la chandeleur à la faire sauter parce que c'est avant tout une fête vraiment festive. Hein. C'est la fête tous les jours. Mais là, la chandeleur, c'est vraiment la fête de la crêpe qui a effectivement un engouement. Ce jour-là, déjà ce matin, on a pu le mesurer sur les trois boutiques de la Presqu'île, la Baule, le Pouliguen et Saint-Nazaire. On a effectivement des demandes déjà en amont de crêpes parce qu'aujourd'hui et ce soir, ça va sûrement être la fête dans la famille où on s'amuse à déguster des crêpes qu'on va garnir avec du chocolat, du caramel, du sucre,
des confitures et tout ça. Faut mieux nature. Mais est-ce que justement le goût du public a changé en 20 ans? Est-ce qu'il y a une demande notamment de crêpes plus légères? Alors c'est un peu antinomique parce qu'une crêpe, c'est pas vraiment léger.
Non, mais il y a une demande un peu plus importante sur le blé noir, la galette de blé noir, donc de sarrasin.
Et la galette, alors là on est sur la galette.
Là, on est sur de la galette, ou de la crêpe aussi, parce qu'en Bretagne, on appelle crêpe de Froment, crêpe de blé noir. Elle est un petit peu plus épaisse et elle est effectivement généralement accompagnée de produits salés. Et là, il y a toujours autant d'effervescence sur la crêpe. Nous, on fait beaucoup de crêpes à emporter. C'est notre métier de base, c'est la crêpe qu'on va faire pour vous, que vous allez gentiment garnir à la maison. Mais là,
et qu'on réchauffe dans ces cas-là, c'est-à-dire qu'il faut la réchauffer, mais complètement, très légèrement.
Vous allez la réchauffer à la poêle, la mettre dans une poêle, et elle est déjà tournée. Donc nous, nos crêpes bretonnes, elles font 40 cm de diamètre, donc ce sont des crêpes qui sont assez grandes.
Ah bah oui.
Elles sont cuites sur
faut
les deux faces.
Il faut une grande poêle aussi, du coup, pour la réchauffer.
Il faut une grande poêle, mais elles sont très fines, parce qu'une crêpe, on va dire, nous, chez nous, nos crêpes, elles font un demi millimètre d'épaisseur sur la froment. Donc la répartition de la chaleur se fait très vite sur une poêle Tefal. On peut très bien la plier en deux. Et puis derrière, les bords sont conducteurs, donc la chaleur se propage, il n'y a aucun souci. Alors, on les mange nature, effectivement, on peut les manger crus directement, ou alors on les accompagne avec ou du sucré, voire même du salé de temps en temps.
Une sucrée avec une garniture salée, ça se fait, ça, c'est pas faire injure à la gastronomie bretonne.
Non, pas du tout, c'est pas mal aussi. Hein, c'est un goût, effectivement, un petit peu moins marqué, mais c'est aussi une jambon fromage avec un œuf en froment, c'est aussi pas mal du tout. Maintenant, on va dire que la plupart de nos ventes se traduisent par des galettes de blé noir, dans lesquelles on fait forcément la fameuse complète jambon, œuf bio et matal.
Merci Loïc Dugast. Et puis pour ceux qui sont dans la région, ils pourront être ce soir sur le port du Pouliguen ou avenue du Général de Gaulle à la Baule, je crois.
Exactement. Ou à Saint-Nazaire sur le port place du Commando. Bah, avec plaisir. Merci encore pour vous. Belle journée, belle chandeleur. Et puis à très bientôt.
On va sortir nos poêles Tefal avec Pascal pour ce soir et allez-y. On va essayer de suivre vos conseils. Merci beaucoup Loïc Dugast.
Merci à vous.
En l'occurrence, je vais en acheter une donc cet après-midi. Merci RTL Midi, votre ville. L'info revient dans quelques instants avec le journal de 12h30.
Céline Landreau, Pascal Pro. RTL Midi jusqu'à 13h. RTL, s'informer ensemble.
Bonjour à tous, si vous nous rejoignez, merci de rester avec nous si vous étiez déjà à l'écoute de ce RTL Midi, il est 12h30.
RTL Midi, le 12h30, Céline Landreau et Pascal Pro.
Avec une actualité dramatique, Céline.
Un meurtre dans le cadre d'une dispute liée à une relation amoureuse. Voilà comment le principal suspect du meurtre de CM, qui a reconnu les faits, a justifié son geste face aux enquêteurs. Le corps de la jeune femme de 18 ans a lui été retrouvé la nuit dernière sur un chemin de campagne isolé sur les indications du suspect près de la Grande Combe dans le Gard. On y revient évidemment dès le début de ce journal. Dans l'actualité également, la Russie qui célèbre avec faste les 80 ans de la victoire de Stalingrad, victoire des Russes sur l'armée nazie. Rien d'anodin, vous allez l'entendre, en pleine guerre avec l'Ukraine. À suivre également, une entreprise qui organise une opération porte ouverte et qui promet des CDI, peu importe les CV des postulants. Et puis du foot, c'est le PSG qui a son infirmerie qui se remplit à moins de deux semaines maintenant du 8e de finale aller de Ligue des Champions contre le Bayern Munich. Inquiétude notamment autour de Kylian Mbappé, blessé hier soir face à Montpellier. Juste avant 13h, LVT Midi, votre rendez-vous culture. On va parler comédie musicale à présent avec Dov Attia. C'est l'homme notamment qui était derrière les 10 commandements et qui s'attaque maintenant à Molière. Enfin, la question du jour sur notre site rtl.fr à propos de la Chandeleur, on vient d'en parler. Faites-vous des crêpes, vous, le 2 février ?
On parlera évidemment de tous ces sujets avec les auditeurs à partir de 13h jusqu'à 14h30 et on reviendra bien sûr sur la mort de CM.
La météo à la fin du journal avec vous, Peggy Broche. Déjà un indice sur ce qui nous attend cet après-midi ?
Plutôt gris sur les deux tiers nord et bleu au sud.
Merci Peggy, à tout à l'heure.
Jusqu'à 13h. RTL Midi.
Elle avait disparu depuis une semaine. Le corps de Siem, cette jeune femme de 18 ans, a été retrouvé cette nuit sur un chemin de campagne isolé près de la Grand Combe, dans le Gard. Sur les indications du principal suspect, passé aux aveux pendant sa garde à vue et placé en détention. Manon Meyer, vous êtes à Nîmes pour RTL, où la procureure a donné ce matin plus de détails sur la nuit du meurtre.
Oui, Siem est sortie de chez elle pour la dernière fois le soir du 25 février à minuit pour se rendre à un rendez-vous amoureux. Puis elle n'avait plus jamais répondu aux appels. Son père avait alors sonné l'alerte. Son corps a finalement été retrouvé cette nuit. C'est ce qu'explique Cécile Jansac, la procureure de Nîmes.
Le corps de la jeune Siem a été retrouvé cette nuit aux alentours de 1h du matin dans un chemin de campagne isolé près de la Grand Combe.
Les gendarmes l'ont retrouvé parce que le meurtrier est finalement passé aux aveux. C'est lui qui a donné les indications pour retrouver le corps. C'était un homme de 39 ans avec qui elle avait une relation amoureuse et selon son récit, il l'a tuée lors d'une dispute. Les proches vivaient dans l'inquiétude depuis une semaine. Une autopsie va être réalisée sur le corps de la jeune femme. On en saura plus très prochainement.
Manon Meyer, envoyée spéciale de RTL à Nîmes, et on reviendra sur ce qui s'est passé cette nuit-là, sur le profil aussi de ce suspect, profil très particulier, dans quelques minutes après le journal, avec Patrick Tégéraud sur place et avec Guillaume Chiez, notre spécialiste police-justice.
RTL Midi.
On en parlait hier midi, des trafiquants de drogue sont jugés cette semaine aux assises de Douai, accusés d'avoir fait transiter de la cocaïne sur les docks du port du Havre.
Alors eux-mêmes ne sont pas dockers, Maxime Lévy, mais ils sont soupçonnés d'avoir œuvré pour faire sortir la cocaïne arrivée par bateau et ils assument devant la cour une partie des faits qui leur sont reprochés.
Oui, prenons Karim Djemel par exemple, 42 ans, père de 4 enfants, une barbe de 3 jours et un regard inquiet vers son épouse présente dans la salle. Chiffrage, partage des gains, il est soupçonné d'avoir participé à la logistique pour sortir la cocaïne du port du Havre en 2017. Pour être franc, on m'a vendu du rêve, explique-t-il, et je suis en train de le payer. Vient le tour de Mohamed Mellal, surnommé Crayon par ses amis. Lui est suspecté d'avoir constitué pour le compte d'un réseau la stratégie et l'équipe qui sortira la poudre blanche. Lui explique n'être qu'un simple extracteur. On lui fait remarquer la présence sur son téléphone en cellule d'une application permettant de suivre l'arrivée des cargos au Havre. On lui demande alors « Vous continuez de suivre les bateaux en prison ?» On partage ce portable avec les autres détenus, se défend-il. Le ton monte d'un coup avec Dion Mendy qui comparaît libre. Il se dit victime d'une erreur judiciaire. « Monsieur le procureur rêve de me voir accroché au pilori. Mais vous ne savez rien de mes rêves, monsieur, » lui répond le magistrat. La bagarre verbale est générale. Le président est obligé de calmer tout le monde.
Maxime Lévy aux assises de Douai pour RTL.
C'était il y a 80 ans, les Russes remportaient la bataille de Stalingrad contre l'armée allemande, un tournant dans la Seconde Guerre mondiale.
Et un anniversaire célébré avec faste par Vladimir Poutine aujourd'hui. Et en pleine guerre contre l'Ukraine, Félix Grasso, ça n'a rien d'un hasard.
Alors effectivement, Vladimir Poutine entend bien exploiter ce symbole de l'abnégation et de l'héroïsme de l'armée soviétique. La victoire de Stalingrad a marqué un tournant dans la défaite de l'Allemagne nazie, alors que les troupes russes sont actuellement engagées dans une opération de dénazification de l'Ukraine, comme le disent les autorités. Et au-delà des célébrations décennales, la manifestation prend un tour particulier cette année. La télévision multiplie les documentaires et les émissions spéciales où l'on n'hésite pas à dire que la victoire est dans l'ADN du peuple russe. Les ficelles sont énormes, mais il faut s'adresser au plus grand nombre et les médias d'État ne reculent devant rien pour jouer sur la corde sensible des Russes. Avec près de 500 000 morts du côté soviétique, la bataille de Stalingrad reste un traumatisme pour la population. Certes, la victoire l'a atténuée, mais le message est clair. Les Russes qui se battent aujourd'hui en Ukraine sont les héritiers de ceux qui se sont battus contre les armées du Reich.
Félix Grasso en Russie pour RTL.
Et dans le cadre de la guerre en Ukraine, la France a déployé depuis le 1er décembre 4 avions Rafale en Lituanie pour assurer la police du ciel aux frontières de l'OTAN. 8 appareils russes ont déjà été interceptés.
Et l'un des pilotes engagés sur place a raconté à RTL comment se passaient ces interceptions, lui qui en a mené une le 16 décembre dernier. Le commandant Burgui s'est confié à Nicolas Burnon. Il revient sur ces secondes très particulières au cours desquelles les pilotes se jaugent.
Premièrement, distinguer que c'est un avion de type chasseur qui peut potentiellement être armé. Et en l'occurrence, c'était un Sukhoi 34 qui transitait depuis Kaliningrad vers la Russie en passant par la mer au large des Pays-Baltes. On se doute que c'est une mission de transit, mais on n'en est pas sûr.
Vous êtes face à ce bombardier russe. Quelle attitude vous adoptez ?
L'attitude, elle est neutre. C'est notre objectif de faire en sorte qu'il n'interprète pas nos évolutions comme une volonté d'escalade. Y aller pas à pas, progressivement. On ne connaît pas sa réaction. Moi, je le vois, je vois son cockpit, et eux font pareil. Ils nous voient aussi arriver, ils nous regardent, et effectivement, il y a eu des échanges de regards. Il y a eu un salut, on va dire, au départ. On n'est pas là pour leur faire peur. Ça montre qu'on vient juste l'intercepter pour l'identifier, mais sans vouloir se battre, pour résumer, contre lui.
Un témoignage signé Nicolas Burnon, à retrouver évidemment en longueur sur notre site internet rtl.fr et en vidéo sur M6 dans le journal de 19h45 ce soir.
On en parlait dans le journal de 12h. Yves Rocher, le groupe de cosmétiques, va supprimer 300 postes.
300 postes sur 3 ans, oui, ce qui se traduira notamment par la fermeture de l'usine de Ploërmel. Mais si certaines usines ferment, d'autres, au contraire, peinent à recruter. Alors, dans le bassin toulousain, Yeo, entreprise qui fabrique des produits laitiers, des yaourts notamment, a décidé de lancer des opérations portes ouvertes. Patrick Hisson, une visite de l'entreprise pour des demandeurs d'emploi. Et ça, quel que soit leur CV. Reportage.
Accompagné par le DRH de l'entreprise, des candidats visitent l'une des 8 lignes de fabrication, celle du lait, où chaque jour 10 000 litres sont produits.
Ça, c'est notre ligne UHT qui permet de faire du lait stérilisé. Et donc le métier de conducteur d'installation va consister à piloter ces installations.
Christian est un senior sans emploi après 35 ans de travail dans l'artisanat.
Oui, ben, c'est impressionnant de visiter une usine. J'ai besoin de bosser. Il me faut un salaire, une feuille de paye, s'en sortir, quoi. Il me manque 16 trimestres.
Beaucoup comme Gilles ont été séduits par ce slogan de l'entreprise.
Le seul risque que vous avez, c'est de repartir avec un CD.
Le seul risque, c'est d'apprendre un nouveau métier et de repartir avec un CD. Ouais.
Gratien de Genève est le DRH de Yeo.
Nous, ce qu'on cherche, c'est des gens, plus que le savoir-faire, c'est le savoir-être et l'envie d'apprendre et la motivation. Un candidat qui a envie, un candidat qui est fiable, un candidat qui est durable et surtout qui aime le produit, parce que quand on fait de l'agroalimentaire, il y a une sensibilité produit qui est importante.
Cette matinée est un succès pour Yeo qui a réuni plus d'une centaine de demandeurs d'emploi, dont une écrasante majorité est ressortie très motivée.
Le reportage de Patrick Hisson à Toulouse pour RTL.
3 points mais 2 blessés, donc Kylian Mbappé, c'est le bilan que peut dresser le PSG après sa victoire hier soir face à Montpellier en Ligue 1.
Et si le score 3-1 est rassurant, ce qu'il est moins, Philippe Sanfourche, bonjour.
Bonjour.
Ce qu'il est moins, c'est la fréquentation de l'infirmerie parisienne qui augmente à moins de 2 semaines maintenant du 8e de finale aller de Ligue des Champions.
C'est chaque année la même chose, donc on n'est pas très surpris.
Vous me laissez même pas finir ma phrase, Pascal. Contre qui joue le Paris Saint-Germain ?
Le Bayern Munich.
Merci, allez-y Philippe.
Oui, effectivement, c'est un peu une habitude. Alors l'inquiétude numéro 1, on va prendre dans l'ordre, c'est évidemment autour du cas de Kylian Mbappé. On attend dans la journée les résultats d'une première IRM de son genou et de sa cuisse gauche. Grande prudence hein, en attendant que ce soit au club ou dans son entourage. Et puis comme un malheur n'arrive jamais seul, Sergio Ramos, le défenseur espagnol, est lui aussi touché.
C'est moins grave.
Adducteur cette fois-ci.
Mais Mbappé, c'est votre jugement. C'est le jugement de tout le monde. Mbappé, c'est un drame national, mais je croyais que c'était pas très grave.
Alors, bah tiens, justement, écoutez Christophe Galtier, hier soir, au stade de la Mosson, à Montpellier, il était tout de même pas franchement ravi de la situation.
Évidemment, ce sont deux joueurs très importants, que ce soit Sergio, Kylian. Par rapport aux enchaînements de matchs, évidemment que les joueurs ne peuvent pas prendre de risques, puisqu'on a un calendrier très chargé, mais apparemment, ça paraît pas très grave.
Alors effectivement, le calendrier, pas le temps de se reposer avec un PSG de Toulouse samedi, puis déplacement à Marseille en Coupe de France, déplacement à Monaco ensuite et enfin le Bayern Munich, tout ça en 12 jours avec un autre blessé en plus qui n'est toujours pas de retour, c'est Presnel Kimpembe. Un mercato, on l'évoquait hier, qui s'est révélé être un fiasco puisque dans ces deux secteurs de l'attaque et de la défense, des arrivées, des renforts étaient attendus, ils ne sont pas là. Malgré effectivement la victoire d'hier à Montpellier, on ne peut pas dire que ce mois de février démarre sur les chapeaux de roue pour le Paris Saint-Germain.
Ça vous fait rire, Pascal ?
Ça me fait pas rire, mais comme quand arrive le printemps, le PSG va mal et a souvent des blessés et n'arrive pas à aller au bout, c'est vrai qu'on est un peu habitué à ces...
Et c'est souvent dans ces situations très complexes que le Paris Saint-Germain déjoue un petit peu les pronostics. Quand ils sont favoris, ça se passe moins bien.
Bon, mais quand ils sont pas favoris, ça se passe pas non plus très bien. Mais enfin, on va voir. On va voir.
Merci Philippe Sanfourche. Vous parliez du printemps qui ne se passe pas toujours bien pour le Paris Saint-Germain, c'est encore l'hiver et on en parle avec vous, Peggy Broche, notamment au nord.
Oui, avec un temps plutôt couvert. Alors c'est vrai qu'on a un temps plus ou moins nuageux. On peut avoir quelques trouées sur les deux tiers nord, c'est possible. On a encore l'espoir de voir quelques éclaircies, même si les nuages sont nombreux. C'est souvent sec, alors sauf entre l'Alsace-Lorraine où là on a encore quelques faibles pluies, localement également quelques flocons sur les Vosges. Et puis au sud d'une ligne Bordeaux-Valence, là, on a du soleil, ça se dégage cet après-midi avec toujours Mistral et Tramontagne qui sont assez sensibles. Tout ça sous des températures qui sont quand même douces hein, pour la saison ou de saison. 7 degrés à Nancy cet après-midi, 9 à Dijon et Clermont-Ferrand, 10 à Orléans et Grenoble, 11 à Paris et Biarritz, 12 à Brest, 13 à Marseille, 14 à Nice et 15 à Toulon.
Merci Peggy.
La mort de CM1 et on y revient dans une seconde.
Jusqu'à 13h, RTL Midi. Pascal Pro, Céline Landreau. RTL Midi. Pascal Pro et Céline Landreau.
Le gardé à vue, lien de famille éloigné de la victime, passé aux aveux, en soirée, il indiquait avoir tué la jeune femme dans le cadre d'une dispute liée à leur relation amoureuse, alors même qu'ils s'étaient retrouvés la nuit des faits en toute intimité.
Vous venez d'entendre Cécile Jansac, la procureure de Nîmes, puisque c'est l'information de la matinée, vous le savez, le corps de Siem. Cette jeune femme de 18 ans a été découvert la nuit dernière. Siem avait disparu il y a 8 jours dans la nuit, alors qu'elle était chez sa grand-mère à la Grand-Combe, dans le Gard. Pour en parler avec nous, Patrick Tégéraud. Rebonjour Patrick.
Rebonjour Céline, bonjour à tous.
Et Guillaume Chiez, spécialiste police-justice. Siem a été découverte sur un chemin de campagne isolé sur les indications, Patrick, du principal suspect qui a donc avoué le crime.
Oui, en suivant les conseils de son avocat, il a fini par reconnaître avoir étouffé Siem. Il fallait qu'il parle pour faire cesser un suspense insoutenable pour la famille de Siem. Chaque minute, chaque seconde était un véritable supplice, même si la confirmation de la pire hypothèse est un drame absolu désormais. Alors très vite, il a été emmené de la geôle de la section de recherche de Nîmes vers le bureau du magistrat instructeur qui lui a signifié sa mise en examen selon la procédure. Et puis vers 1h du matin, il a guidé les gendarmes vers un chemin de terre en pleine forêt où le corps de la jeune fille a été retrouvé. Après l'autopsie, dans les jours qui viennent, il sera mis en examen pour meurtre.
Est-ce qu'il a évoqué le mobile ? Est-ce qu'il a expliqué son geste ?
Mais vous l'avez entendu, Madame la procureure de la République l'a indiqué tout à l'heure. Siem et son meurtrier s'étaient retrouvés mercredi dernier, peu avant minuit, pour un rendez-vous dans l'intimité. Après, il y a eu une dispute liée à cette relation amoureuse. Alors, la liaison entre Siem et Mahfoud Ansali était secrète. Sa compagne est une cousine par alliance de Siem. Il était en instance de séparation. Mais peu avant de disparaître, Siem avait brisé le secret. Elle avait confié à ses amis les plus proches qu'elle était avec lui. Alors, a-t-il été pris de colère? C'est une hypothèse plausible, mais ce mobile paraît bien léger pour la gravité des faits.
Et vous le disiez, Patrick, ils se connaissaient depuis longtemps. Siem avait d'ailleurs été la babysitter des enfants du couple.
Oui, ils sont originaires du même village. Ils se connaissaient depuis toujours, quasiment. Siem était une vague parente de l'ex-compagne du meurtrier. Elle avait donc gardé leurs enfants. Mais dans l'entourage familial, on me confiait dès hier soir que si on avait su qu'elle entretenait une liaison avec cet homme, on l'en aurait dissuadé car tout le monde connaissait sa réputation, son passé judiciaire. C'est bien simple, ces 10 dernières années, il a passé plus de temps en prison qu'en liberté.
Guillaume Chiez, justement, qui est spécialiste police-justice, l'homme qui a avoué le meurtre à un profil de criminel.
Oui, il a 39 ans, c'est un multirécidiviste condamné à 5 reprises pour des atteintes aux biens, condamné également en 2015 à 12 ans de prison pour un vol à main armée, une peine qu'il a intégralement purgé, a précisé tout à l'heure la procureure de Nîmes. Il devait aussi comparaître libre aux assises hier dans une autre affaire d'enlèvement et de séquestration qui date de 2010. Bref, ce parcours et ce profil d'homme proche du banditisme local ont entraîné les gendarmes sur diverses pistes et c'est normal. Hein. Dans ce cas de figure, les enquêteurs envisagent différents scénarios et notamment celui d'un possible enlèvement crapuleux de Siem.
Qu'est-ce qu'on appelle intégralement purgé ? Parce qu'il a été condamné en 2015 à 12 ans de prison. Il avait fait 3 ans de préventive et il est sorti avant ces 12 ans. Donc il y a eu de la remise mise de peine quand même.
En fait, à partir de deux tiers de la peine, on peut demander un aménagement de peine.
C'est
qui fait en sorte que la peine est intégralement purgée.
Sur les faits qui ont été reconnus, Guillaume, qu'est-ce qui va se passer maintenant? C'est quoi la suite pour les enquêteurs?
Alors maintenant, le dossier est entre les mains d'un juge d'instruction. Le magistrat ne va évidemment pas prendre pour argent comptant les déclarations de ce mis en examen. Un élément sera déterminant dans ce dossier, c'est l'autopsie pratiquée sur le corps de la jeune femme. Selon la procureure, un premier rapport devrait être remis courant de la semaine prochaine par le médecin légiste. Avec cette autopsie, le juge d'instruction pourra entendre l'homme qui est passé aux aveux et confronter ses déclarations. Rappelons-le, il parle d'un étouffement involontaire aux constatations qui auront été faites sur le corps de Siem.
Et cet homme devait passer ses prochains jours aux assises.
Hier, en fait, pour des faits commis en 2010.
Et il était malgré cela en liberté.
Oui, il était en liberté parce qu'on ne peut pas être placé en détention provisoire plus de 3 ans pour ce type de faits qui lui sont reprochés.
Merci beaucoup pour toutes ces explications, Guillaume Chiez, et merci à vous, Patrick Tégéro, en direct du Gard, donc pour RTL.
Et j'imagine évidemment que vous serez nombreux à nous appeler pour donner votre avis sur ce drame. Il est 12h48, nous allons parler de Molière et d'une comédie musicale avec Dov Atia et Laurent Marsic. À tout de suite.
L'actualité vous concerne.
Sur RTL, venez en débattre au 32-10.
50 centimes la minute.
RTL.
Laissez-vous tenter midi.
Place à la culture maintenant et donc un retour. Retour de Dov Atia à la comédie musicale. À 65 ans, l'ancien juré de Nouvelle Star revient à la comédie musicale avec un projet singulier baptisé Molière, l'opéra urbain. Laurent Marsic, vous avez rencontré Dov Atia et vous allez tout nous dire.
Exactement, c'est un peu le retour d'un faiseur de succès. Ça, c'était les 10 commandements qu'il avait produits au début des années 2000, en passant par Autant d'emporte le vent, Le Roi Soleil, Mozart, l'opéra rock qu'il a écrit. Et bien d'autres comédies musicales encore. Les spectacles de Dov Atia ont attiré plus de 7 millions de spectateurs en salle, 2015 pour la dernière fois. Et voici pourquoi Dov a dit oui à cette comédie musicale baptisée Molière, l'opéra urbain, dont il signe le livret, les paroles et la musique.
Je ne voulais pas refaire ce que j'avais déjà fait. Pour être franc, j'ai regardé un peu les spectacles dans le monde et j'ai vu qu'il y avait une nouvelle forme, une nouvelle manière de faire la comédie musicale. C'est qu'avant, il y avait une alternance, c'est-à-dire on chantait. Et puis c'est des dialogues, avec une musique derrière, on chante, dialogue. Et là, l'idée de faire un opéra, c'est-à-dire seulement une suite de chansons, avec des chansons classiques à grande mélodie, comme d'habitude. Et puis au lieu que ça soit un dialogue, dans une chanson, on raconte l'action, mais en chantant, en répondant par du dialogue, par du slam, des fois un petit peu de rap. Et en fait, ça fait comme dans un opéra, mais très moderne. Et là, il y a un rythme, et il y a une émotion que je n'avais pas avant dans mes anciens spectacles. Et cette nouvelle forme de comédie musicale m'a donné envie de recommencer.
Laurent, mais pourquoi Dov Atia décide de s'attaquer à Molière aujourd'hui?
Alors, ça fait déjà des années qu'il y pensait, et tout simplement parce que la vie de Molière est incroyablement riche.
Et sa vie est exceptionnelle, extraordinaire. C'est un roman. C'est l'histoire d'amour, l'adversité. Ça a été quelqu'un politique qui a dérangé, c'est le premier féministe de l'histoire et la première star de l'histoire. Tout le monde connaissait Molière.
Molière, l'opéra urbain, ça ressemblera à quoi?
Alors, tout le livret est terminé, mais 2 titres seulement ont été enregistrés et diffusés. Voici donc dans le rôle de Molière, l'homme psy, un chanteur, rappeur, auteur et pianiste.
Je m'appelle Jean-Baptiste Poquelin, tapissier ou artiste, aujourd'hui ce joue mon destin, ce même destin qui m'a pris, ma mère que j'aimais tant, si le bonheur a un prix, je l'ai payé il y a longtemps, mon enfance fut solitaire et la souffrance était ma seule amie, jusqu'au jour où mon grand-père m'a ouvert les yeux à la vie, il m'a emmené.
C'est un Molière revisité, c'est un Molière assez moderne.
Vous allez comprendre.
Exactement. Évidemment de notre temps.
Voilà, à ses côtés, Abby Bernadotte. Alors vous en souvenez peut-être pas, mais c'est le grand gagnant de la 9e saison de The Voice. Lui sera le prince de Conti, celui qui a protégé pendant un temps la troupe de Molière. Et puis ensuite qui
après, effectivement, a été un intégriste religieux.
Totalement. À la la mise en scène, ils ont quand même choisi un cador, Ladislas Chola, l'homme aux six Molières. On lui doit, par exemple, Résiste, la comédie musicale de France Gall. Est-ce que ce sera le tout dernier tour de piste de Dovatia? Voici sa réponse.
Alors, est-ce que ce sera la dernière? Je ne sais pas. Déjà, j'ai refait ma vie, des enfants très jeunes qui n'ont jamais vu mes spectacles. Donc c'est aussi un peu pour eux que je le fais, ils savent pas ce que je fais. Donc s'ils aiment, ils me disent « Papa, il faudrait que tu recommences, qu'on aime beaucoup, peut-être je vais recommencer. » Mais j'y vais que si je suis inspiré, voilà. S'il n'y avait pas eu l'idée de Molière, je pense que j'aurais pas été.
Ça est moderne, vous l'avez dit. Ce sera quand même dans des décors et des costumes du 17e, évidemment. Rendez-vous le 11 novembre au Dôme de Paris, puis Molière, l'Opéra Urbain partiront tourner France, Belgique, Suisse. La billetterie est ouverte.
Bon, l'idée, c'est de raconter la vie de Molière, mais j'imagine évidemment qu'il y aura des références à toutes les pièces de Molière, et pourquoi pas.
Il y aura même des morceaux de texte de certaines pièces de Molière à l'intérieur.
Voilà, on sait lesquels, le Misanthrope, Don Juan.
L'école des femmes, notamment, il m'a expliqué
ça. Le petit chat est mort, et ça, c'est la phrase de Guitry, quoi de neuf Molière, qui illustre finalement Dovatia. Quoi de neuf, disait Guitry, quand on lui posait la question, il répondait Molière.
Eh bien voilà.
Et moi j'ai été très séduit par votre Jean-Baptiste. Jean-Baptiste Poquelin.
Ce sera très chouette à voir, je pense.
Merci beaucoup Laurent Marcy. Vous pouvez prendre déjà une place pour Pascal qui vous accompagne.
Bien sûr, et puis on peut revoir le Molière d'Ariane Mnouchkine avec Philippe Cobert.
On peut relire, on peut tout.
Qui était sorti en 78 à Cannes. Merci, Molière est éternel, c'est
bien
ça
sûr,
qu'il faut
Pascal.
Dire. Bien sûr, il est 12h56, pourquoi vous souriez? Vous n'aimez pas Molière?
Ah si, j'aime beaucoup, mais disons que le pont entre l'Onepsi et Cobert n'était pas évident, vous l'avez fait, bravo.
La pause et nous partons avec les auditeurs. À tout de suite.
RTL Midi.
RTL.
Dans quelques secondes, il sera 13h.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
C'est une information qu'on devinait et qu'on craignait une semaine après la disparition de CM, 18 ans dans le Gare. Son corps a été retrouvé ce matin dans un bois grâce aux indications du principal suspect. Vous êtes très nombreux à nous appeler. Jean-Pierre, bonjour.
Oui, bonjour.